Bien, ben je pense qu'on peut commencer. Alors, tout d'abord, effectivement, peut-être signaler qu'il y a eu un petit problème de communication, peut-être au sujet de l'affiche du cours, puisque, effectivement, originellement, je pensais faire, en tout cas pour aujourd'hui, quelque chose de plus basé sur. Certaines applications thérapeutiques, ce qu'on appelle les molécules chaperones, et qui était un peu la fin du cours de l'an dernier. Il se trouve que, comme je suis toujours un peu en retard sur ce que je fais, que je pensais, pendant mes cours de novembre, passer 1 heure sur les actualités récentes en génétique de l'autisme et de la déficience intellectuelle, et que finalement, les cours que j'avais faits sur les biais de sexe dans les maladies neurodéveloppementales m'avaient pris un peu plus de temps. J'ai décidé de changer, mais malheureusement, malgré mes communications avec le collège, l'affiche n'a pas été modifiée. Et donc, ce que je vais vous faire aujourd'hui, donc, c'est effectivement 2 heures sur un peu un choix d'actualité récente en génétique de l'autisme et de la déficience intellectuelle. Et je vais vers la fin de la deuxième heure présenter aussi des propositions peut-être un peu iconoclastes sur la manière dont on va pouvoir interpréter l'explosion, mais aussi l'extraordinaire complexité dont je vais vous parler de la génétique dans la déficience intellectuelle et dans l'autisme. Et de voir comment, effectivement, on peut essayer d'avoir des interprétations en termes de conséquences cliniques sur ces atteintes. La semaine prochaine, je vais parler d'un certain nombre d'articles qui montrent là aussi une explosion technologique. Qui va avoir un impact sur le diagnostic prénatal et ce qu'on appelle le diagnostic préconceptionnel de maladies génétiques, en tout cas potentiellement. Donc, mercredi prochain, ça sera montrer qu'est-ce qui a été fait ou qu'est-ce qui est technologiquement possible de faire, qui a été proposé. Et le 21 mars, le format sera différent, puisque d'abord ça sera plus long, ce sera près de 3 heures, et sous forme de table ronde avec un certain nombre de participants qui vont de généticiens, gynécologues, mais aussi sociologues et représentants d'associations de malades. Pour discuter effectivement sur ces possibilités d'extension des diagnostics, je dirais, préventifs, diagnostic prénatal ou diagnostic préconceptionnel de maladies génétiques, quels sont les problèmes que ça pose, à la fois problèmes éthiques, problèmes éventuellement d'économie de la santé, et pour commencer à discuter de quelque chose qui peut arriver très vite et il faut quand même qu'on commence à s'y préparer en se demandant qu'est-ce qu'on accepte, qu'est-ce qu'on n'accepte pas et si on accepte, comment on va le réaliser. Alors, c'est une DIA que j'ai déjà montrée, je pense, à plusieurs reprises au cours de mes cours, puisque j'avais fait à diverses reprises plusieurs cours sur ce qu'on appelait le retard mental, que maintenant, en tout cas, les Américains ont décidé, même par une loi, qu'on n'avait plus le droit d'utiliser le terme retard mental parce qu'il était considéré comme dérogatoire, parce qu'apparemment, retarded est une injure dans les cours d'école, etc. Donc maintenant, la loi est que si on reçoit des financements publics, on n'a pas le droit dans les publications de mettre retard mental, il faut mettre intellectual disability. Alors, je ne sais pas si le terme de déficit, ça peut se traduire comme déficience intellectuelle ou handicap intellectuel. En tout cas, disons, il y a des définitions, les définitions qui sont celles du retard mental. C'était défini par un niveau de QI qui est moins de deux déviations standards en dessous de la moyenne qui est censée être, puisque la construction du QI est censée être à 100. Donc, à partir de 70, vient la zone du retard mental. Mais encore faut-il que ce QI de 70 soit présent avant l'âge de 18 ans pour distinguer ceci des maladies neurodégénératives qui peuvent, on va dire par exemple Alzheimer, qui vont évidemment faire énormément baisser le QI, mais beaucoup plus tardivement. Donc le retard mental, c'est quelque chose qui est établi, mais il suffit pas qu'il y ait effectivement ce QI inférieur à 70, mais que ça entraîne des déficits du fonctionnement adaptatif dans la société, donc l'autonomie, le fonctionnement social, la possibilité de travailler, etc. Et on définit le retard mental comme modéré à sévère quand c'est un QI inférieur à 50 et comme léger pour les QI entre 50 et 70, aux environs de 70, on va considérer que c'est borderline en anglais, donc c'est limite. Alors, c'est le retard mental modéré à sévère, c'est 0,3 à 0,5% de la population. Le retard mental léger, c'est les estimations sont très variables, ça va selon les pays, les statistiques, les époques, entre, je dirais, 1, 2 et même jusqu'à 3 ou 4 %. Alors, c'est un problème important de santé publique, mais qui, curieusement, y compris quand on voit les appels d'offres européens pour la recherche, on parle beaucoup de maladies psychiatriques, on parle beaucoup de maladies neurodégénératives et on parle très peu de retard mental parce que je pense que c'était plutôt considéré comme un problème socio-éducatif que comme un problème, je dirais, scientifique et médical. Et or, pourtant, ça, c'est un problème scientifique et médical important, puisque notamment, quand on voit les consultations, par exemple, de génétique clinique, eh bien, la déficience intellectuelle est une part majeure des demandes de consultation de génétique clinique. Alors, la génétique dans tout ça, eh bien, on était quasiment sûr que pour ce qui est des du retard mental modéré à sévère, la génétique rentrait pour une part importante, probablement au moins deux tiers des cas étant très fortement génétiques. Alors sur cette DIA un peu ancienne, vous voyez qu'il y a marqué pour le retard mental ou la déficience intellectuelle dite légère, c'était marqué un peu, enfin c'était indiqué à l'époque, c'est une image ancienne. Attendez, comment ça marche ? Comment je fais pour marcher ? Bon, enfin bref, il y a marqué culture familiale, qui est une manière de dire qu'on ne sait pas trop ce que c'est. Et en fait, c'est évident que comme dans la plupart des maladies communes, ceci veut dire qu'il y a une part génétique en interaction avec une part environnementale et qu'il est difficile de distinguer les deux, encore que maintenant la génétique montre effectivement son importance aussi dans ce retard mental léger. Alors l'autisme, beaucoup on en parle beaucoup. Donc c'est des troubles, donc c'est une maladie neurodéveloppementale, puisqu'elle est acquise extrêmement tôt, et est caractérisée par des troubles de l'interaction sociale et de la communication, et avec aussi des comportements restreints et répétitifs. Alors, ceci dit, les définitions de l'autisme ont varié au cours du temps, avec des sous-classifications qui ont elles-mêmes varié beaucoup au cours du temps, ce qu'on appelait par exemple les troubles envahissants du développement. Ce qui fait que d'ailleurs maintenant aux États-Unis, on parle de troubles du spectre autistique, Autistic Spectrum Disorder, qui indique qu'il s'agit quand même de choses qui sont assez hétérogènes. Et j'avais trouvé effectivement, c'est dans Wikipédia, cette phrase qui dit « ça recouvre de nombreuses conditions pathologiques et psychologiques qui ne sont pas encore uniformisées ». Et ma question, c'est est-ce que ça peut être uniformisé ? Parce que c'est tellement de choses différentes que je pense qu'on ne pourra pas l'uniformiser. J'aurais pu vous montrer d'ailleurs à ce sujet une vidéo qu'un collègue pédopsychiatre m'avait passée, où on voit deux enfants, c'est une vidéo de deux enfants, qui sont tous les deux, selon les échelles cliniques généralement utilisées pour définir est-ce qu'un enfant est autiste ou pas, ces deux enfants, effectivement, ont le diagnostic d'autisme. Et quand on voit les vidéos, on se dit ces deux enfants, ils ont quelque chose de complètement différent. C'est vraiment pas la même chose. Simplement, vous avez des échelles et vous mettez un point si... un signe est présent, 0 points si le signe est absent, et quand vous atteignez 6 ou 7 points, vous dites, voilà, l'enfant est autiste. Le problème, c'est que quand c'est des points qui sont acquis pour des items différents, eh bien, vous pouvez avoir des enfants qui ont des présentations cliniques très différentes et pourtant qui, à la fin, ont ce diagnostic d'autisme. Alors, une chose qui est très curieuse et qui a au moins des explications partielles, mais qui a beaucoup troublé, c'est l'explosion de la fréquence de l'autisme depuis une vingtaine d'années. Alors, j'ai trouvé, oui, je n'avais pas vu le petit. Alors ça, c'est d'un article récent dans Nature, la revue anglaise, qui montre la courbe de fréquence de l'autisme, qui était considéré comme affectant une personne sur 5000 en 1975, et on est maintenant à 1 sur 110. Alors, on pourrait parler d'épidémie d'autisme, et certains se sont dit, mais y a-t-il des causes environnementales, par exemple? Et notamment aux États-Unis, je crois, certaines associations avaient mis en cause peut-être certains vaccins, le fait qu'il y ait, je crois, du mercure dans certains vaccins, etc. Mais en fait, et alors vous voyez ici, selon les différents types d'autisme, alors le syndrome d'Asperger, c'est une forme donc d'autisme sans déficience intellectuelle, c'est ce qu'on appelle les autistes de haut niveau, hein, type Rain Man, l'autisme infantile qui, lui, est beaucoup plus souvent associé à une déficience intellectuelle. Et vous voyez que, y compris d'ailleurs pour le même auteur, qui est M. Fonbonne, qui est un Français d'origine, mais qui, après avoir été en Angleterre et maintenant au Canada, et vous voyez que, par exemple, pour l'autisme infantile, on passe de 1 sur 1400 à 1100 jusqu'à 1 sur 500. Pour les troubles envahissants du développement, on passe de 1 sur 500 à 1 sur 150. Syndrome d'Asperger, 1 sur 3000, on en est à 1 sur 1500, etc. Donc, vous voyez, toutes les catégories augmentent de fréquence. Est-ce que c'est une vraie augmentation ou est-ce que c'est simplement une augmentation qui est due à ce que on a changé les critères diagnostiques et effectivement il y a un outil diagnostique aux États-Unis qui s'est largement répandu qui s'appelle le petit DSM avec différentes éditions, DSM-2, DSM-3, DSM-4 et dans chaque édition les définitions d'autisme changeaient, devenaient plus larges. Et donc, d'autre part, quand on avait un enfant avec une déficience intellectuelle et des problèmes de communication, leur diagnostic était celui de retard mental pendant très longtemps. Et puis, petit à petit, on a plutôt donné le nom d'autisme pour différentes raisons. Celui, peut-être, que ça a l'air d'être quelque chose de plus scientifique, d'être une cause plus intéressante. Discuter avec des collègues qui disaient que, par exemple, aux États-Unis, vous bénéficiez d'aide éducative plus facilement, une famille bénéficie d'aide éducative plus facilement s'il y a un diagnostic d'autisme que s'il y a un diagnostic de intellectual disability, etc. Donc, si vous voulez, il y a eu un shift. Ce qu'on appelait retard mental, c'est appelé autisme, c'est ce qu'ils appellent diagnostic accretion. Greater awareness, c'est-à-dire que il y a plus d'intérêt à effectivement diagnostiquer ces anomalies de la communication et donc on en diagnostique plus avant, on pourrait peut-être dire oui, il est un peu bizarre, mais on ne va pas lui donner un diagnostic. Une chose qui peut être intéressante, en tout cas dans cette étude, on a remarqué que l'âge parental a augmenté et alors on pourrait se dire quel est l'effet de l'âge parental sur l'autisme. On pourrait se dire que ça pourrait être un effet environnemental d'être éduqué par des parents plus âgés, mais en fait je pense que là-dedans on peut avoir sans doute pas mal une explication génétique puisqu'on sait que pour un certain nombre de mutations, la probabilité de mutation augmente avec l'âge, c'est bien connu pour la trisomie 21 et pour l'âge maternel, mais il y a aussi un certain nombre de maladies, par exemple des formes de nanisme, etc., dont on sait que c'est des néomutations qui, dont la fréquence augmente avec l'âge paternel. Donc, si vous voulez, il est possible qu'effectivement le fait que l'âge à la naissance, l'âge parental à la naissance des enfants a augmenté pour des raisons sociales, sociologiques, pourrait effectivement contribuer peut-être à une part d'augmentation. Et en tout cas, dans cette étude qui était rapportée dans Nature, il disait, ben, finalement, il y a la moitié, on ne sait pas vraiment d'où vient cette augmentation. Donc, est-ce qu'il y a quand même des aspects environnementaux qui jouent? Je dois dire qu'il y a quand même beaucoup de gens qui pensent que c'est beaucoup plus que les 25% le fait qu'on ait changé les critères diagnostiques. Alors, simplement, là aussi, pour reparler très brièvement de qu'est-ce, d'une manière générale, comment la génétique peut expliquer des maladies. Il y a d'une part ce qu'on appelle les maladies monogéniques, où effectivement on a une mutation dans un gène donné, soit sur seulement une des deux copies pour les maladies dominantes, soit sur les deux copies dans les maladies récessives, et où la présence d'une mutation, de ces mutations qui inactive ou qui entraîne un dysfonctionnement du gène, entraîne la maladie avec une causalité très forte, une causalité qui peut être, je dirais, absolue. C'est-à-dire que, par exemple, Si vous avez une mutation qui inactive le gène de la myopathie de Duchenne, vous aurez cette forme de myopathie. La causalité peut être un petit peu moins absolue et quand vous avez un risque très élevé mais qui n'est pas de 100%, par exemple des mutations dans le gène BRCA de cancer du sein vont donner un risque de développer un cancer du sein de 70 à 80%, mais pas de 100% aux femmes qui en sont porteuses. Voilà. Mais, disons, maladie monogénique, il y a un gène qui, quand il est muté, entraîne, comme dit, avec une causalité de 100% ou en tout cas avec une causalité très forte, le risque de développer la maladie. Il y a les maladies chromosomiques ou subchromosomiques, c'est-à-dire des microdélétions ou des microduplications de segments chromosomiques qui peuvent toucher quelques dizaines, vingtaines, trentaines de gènes ou quelquefois seulement deux ou trois gènes. Et au départ, bon, bien connu pour la trisomie 21, trois chromosomes 21, mais par la suite, de nombreux syndromes microdélétionnels ont été trouvés, et là aussi, les utilisations des méthodes de génomique telles que les puces à ADN ont entraîné une explosion, et je vais en parler assez longuement, de ces maladies dues à des délétions ou duplications de segments du génome et qui sont associées très fortement à la déficience intellectuelle et également à l'autisme. Et puis, à l'autre extrémité, on a ce qu'on appelle les maladies multifactorielles, qui représentent quasiment, j'ai fait plusieurs cours là-dessus les années précédentes, qui représentent, j'allais dire, l'ensemble de la médecine, et qui est le fait que ces maladies se développent par des interactions entre, d'une part, des prédispositions génétiques qui peuvent être liées à des variations plus ou moins fréquentes dans la population au niveau de plusieurs gènes et quelquefois d'un grand nombre de gènes, et en interaction avec des facteurs de l'environnement. Alors, ce mode maladie commune multifactorielle a été au départ appliqué pour rechercher des causes d'autisme et aussi de schizophrénie avec assez peu de succès, et j'essaierai de vous dire pourquoi. Alors, je vais passer peut-être très rapidement, puisque ça aussi c'est des choses que j'avais fait dans les autres années, mais je vais commencer sur ce retard mental lié au chromosome X, parce que historiquement, c'est là qu'on a commencé à, je dirais, analyser de manière assez systématique à rechercher des gènes qui, lorsqu'ils sont mutés, entraînent une déficience intellectuelle. Et ces gènes ont été recherchés sur le chromosome X, d'une part parce qu'effectivement, il y avait des observations qu'il y avait plus de garçons qui étaient atteints de déficience intellectuelle que de filles. J'en ai beaucoup parlé au mois de novembre dans mon cours sur le biais de sexe, mais aussi parce que il était plus facile d'avoir ce qu'on appelait des familles informatives qui permettaient, disons, d'identifier le gène par des techniques dites de clonage positionnel. Et si vous voulez, ces dias vous illustrent un peu l'histoire de ce retard mental lié au chromosome X, où petit à petit, et notamment grâce à un consortium européen où il y a des équipes françaises comme celle de Jamel Chély qui ont joué un rôle très, très important pour collecter des familles avec ces retards mentaux liés au chromosome X, qui ont permis d'identifier toute une série de gènes qui, lorsqu'ils sont mutés, entraînent des déficiences mentales. Déficiences mentales qui peuvent être syndromiques, c'est-à-dire que, en dehors de la déficience mentale, vous avez particularité soit physique, soit l'association avec des troubles neurologiques spécifiques, etc. Soit ce qu'on appelle un retard mental, une déficience intellectuelle non spécifique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de signes cliniques évidents qui permettent, a priori, de dire, voilà, c'est tel ou tel gène qui est impliqué. Et ça, c'est simplement pour vous donner cette diapositive qui vient d'une revue récente de Hilger Roppers, qui est un Berlinois qui travaille énormément sur la génétique de la déficience intellectuelle, et qui montre pour tout ce chromosome, d'une part, des gènes qui sont impliqués dans des formes syndromiques, et puis là, toute une série de gènes qui sont impliqués dans des formes non syndromiques, non spécifiques. Quelquefois, d'ailleurs, on a les mêmes gènes qui sont pour les deux, simplement parce que, selon les familles ou quelquefois selon le type de mutation, par exemple, on peut avoir, pour certains gènes, des mutations fortes vont donner un syndrome, et des mutations qui inactivent que partiellement le gène vont donner une symptomatologie non spécifique. Donc, à l'heure actuelle, on est en 2010, on en était à 90 gènes qui sont connus pour être impliqués dans le retard mental, rien que sur le chromosome X. Et le code couleur ici donne les grands types de fonctions des protéines qui sont codées par ces gènes. Vous avez des gènes qui sont impliqués dans la régulation transcriptionnelle, des gènes qui sont ce qu'on appelle la transduction du signal, c'est-à-dire de la membrane vers le noyau, comment faire les cascades de kinase, de phosphatase qui permettent de traduire ces signaux qui informent le noyau de la cellule sur ce qui se passe à l'extérieur de la cellule, la régulation du cytosquelette d'actine, des aspects de transport ionique, des aspects de modification de protéines liées au catabolisme de ces protéines. Donc, vous voyez des fonctions très diverses, chacune d'entre elles, quand elle est atteinte, pouvant entraîner, donc dans ces gènes spécifiques, une forme de déficience intellectuelle. Alors, une chose. Alors, maintenant, il y a des travaux de Roppers non publiés qui, je crois, rajoutent une dizaine de gènes. Donc, on sera à 100 gènes uniquement pour le chromosome X. Alors, un aspect de cette complexité, rien que pour le chromosome X, c'est que quand même, dans une famille, est-ce que c'est important où il y a un enfant qui est atteint d'une déficience intellectuelle ? Est-ce que c'est important de savoir s'il y a un gène qui est muté et de savoir quel est le gène qui est muté ? Quelle importance ça peut avoir ? Eh bien, c'est une question qu'on peut se poser d'ailleurs pour tout diagnostic génétique. À quoi ça sert, si vous voulez ? Finalement, vous constatez qu'il y a une maladie qui est présente chez un enfant ou un adulte, à quoi ça sert de savoir exactement quel est le gène qui est porteur de la mutation, quelle est la mutation précise à l'intérieur de ce gène ? Eh bien, je dirais qu'il y a trois réponses, trois raisons. La première, c'est, je dirais tout simplement, et c'est important pour la famille, de savoir. C'est-à-dire que quand vous avez un problème important de santé, les gens veulent savoir pourquoi, avoir un nom. Alors ça, c'est important d'avoir un nom. Mais en plus, avoir un nom peut permettre, si on connaît déjà la maladie spécifique liée à la mutation dans un gène donné, de pouvoir aussi avoir une idée de est-ce qu'il y aura une progression, est-ce qu'il y aura d'autres choses qui vont se rajouter au cours de l'évolution de la maladie. C'est-à-dire avoir une notion sur le futur. Donc ça, c'est une des choses. Mais en dehors de cet aspect simplement de pouvoir mettre un nom précis sur la cause. Et je dirais, dans le cadre de la déficience intellectuelle, et surtout quand elle est associée à des troubles du comportement, je dirais que c'est particulièrement important. Pourquoi ? Parce qu'il y a souvent une notion de culpabilité latente ou avérée. Est-ce que c'est parce qu'on n'a pas éduqué l'enfant, on n'a pas entouré l'enfant comme il fallait ? Et notamment en France, par rapport à l'autisme, il y a eu quand même un effet très délétère des psychanalystes qui disaient « oui, c'est une interaction anormale de la mère avec son enfant », et donc qui augmentait encore cette sensation de culpabilité. Alors pouvoir dire « voilà, il y a une raison, ça ne changera pas peut-être effectivement le cours des choses, mais en tout cas, c'est pas parce qu'on a fait quelque chose de pas bien ». La deuxième raison, donc, c'est quand vous avez une famille qui a un enfant avec une déficience intellectuelle, la question, si c'est une famille qui pense avoir encore d'autres enfants, c'est est-ce que le risque d'avoir d'autres enfants atteints aussi de déficience intellectuelle est important ou pas ? Est-ce que c'est un accident qui a peu de chances d'arriver ou au contraire, c'est quelque chose qui va arriver ? Et ça peut être quelquefois même pour les frères ou sœurs d'un garçon atteint qui peuvent se demander est-ce que finalement nous avons aussi un risque d'avoir des enfants avec cette même maladie. Donc pouvoir définir le risque de récurrence. Et ça, on ne peut définir le risque de récurrence que si on sait exactement ce que c'est. Tant qu'on ne sait pas exactement ce que c'est, on ne peut donner que des espèces de statistiques générales, c'est ce qu'on faisait dans le temps, mais qui sont tout à fait, je dirais, individuellement fausses. Et donc, pour pouvoir vraiment dire à une famille, à un couple, ou quelquefois, dans le cas de l'X fragile, vous pouvez avoir des personnes à risque de transmettre la maladie qui sont des cousins éloignés de l'enfant qu'on a diagnostiqué, eh bien, c'est important d'avoir la cause. C'est aussi ce qui peut permettre le diagnostic prénatal, parce que le diagnostic prénatal, dans ces cas-là, c'est de savoir est-ce que, si on a identifié la lésion, le fœtus porte ou pas cette même lésion. Et puis, je dirais la troisième raison qui, pour le moment, et je dirais malheureusement encore, peut-être exceptionnel, en tout cas dans le cas de la déficience intellectuelle, à quelques exceptions, c'est de se dire, est-ce que quand on connaît la mutation exacte, dans quel gène, ça va permettre d'avoir un traitement spécifique ? Alors, quand même, il faut signaler que la première cause génétique de déficience intellectuelle, trouvée bien avant qu'on puisse séquencer de l'ADN, c'est la phénylcétonurie, qui a été, je dirais, à partir de premières études en 1930 jusqu'en 1950 sur les bases biochimiques de cette phénylcétonurie. Et ce premier exemple d'une anomalie biochimique entraînant une déficience intellectuelle a été aussi, et très rapidement, et on aurait bien aimé que ça arrive plus souvent, a entraîné la définition d'un traitement, et en plus d'un traitement efficace. Mais efficace par le dépistage néonatal de cette maladie qui permet de faire le régime pauvre en phénylalanine approprié. Donc, si vous voulez, cet exemple qui a été le premier, malheureusement, trop peu suivi d'autres exemples d'une maladie où, quand on trouve la cause, on peut avoir un traitement spécifique, est quand même un exemple. Et hors de la déficience intellectuelle, il y a d'autres exemples maintenant de maladies, de plus en plus, j'en avais parlé dans mes cours de l'an dernier, où, à partir de la connaissance de la lésion dans la famille, dans le patient, on peut savoir qu'il peut y avoir, pour tel ou tel gène muté, tel ou tel traitement spécifique. Et j'avais parlé l'an dernier, justement, de cas du retard mental avec X fragile, où, j'en reparlerai brièvement, où à partir de la compréhension de la physiopathologie, notamment grâce à des modèles souris, a été mise en place des essais cliniques avec des molécules basées sur cette compréhension physiopathologique. Donc, c'est les trois raisons. Alors, oui, alors, pourquoi cette longue digression ? C'est pour dire que là, la recherche génétique permettait d'identifier environ 90 gènes qui, lorsqu'ils sont mutés, sont responsables de retard mental, rien que sur le chromosomix. Mais au niveau des laboratoires de diagnostic, je suis également à Strasbourg responsable d'un laboratoire de diagnostic, il y avait relativement peu, peut-être une petite dizaine de ces gènes qui pouvaient être testés en diagnostic chez des patients. Et en général, c'était soit parce que c'est un test relativement simple, comme le retard mental avec X fragile, c'est toujours la même mutation, donc c'est facile à tester, soit pour des formes syndromiques où des bons cliniciens, des bons généticiens cliniciens peuvent, en regardant les signes physiques d'un malade ou les signes neurologiques, comme dans le syndrome de Rett, dire « Tiens, c'est probablement tel syndrome de Coffin-Lowry, c'est le syndrome de Rett, qui permettait d'orienter la recherche vers un des 90 gènes. » Mais pour les 80 autres, ils existaient dans la littérature, mais il n'y avait aucune offre diagnostique. Alors pourquoi est-ce qu'il n'y avait pas d'offre diagnostique ? C'est simplement que étudier les mutations dans un gène avec les techniques conventionnelles de séquençage d'ADN, c'était quelque chose d'assez cher, et pouvoir le faire pour 90 gènes, c'était, si vous voulez, financièrement impossible. Donc les gens ne le faisaient pas, les laboratoires de diagnostic ne le faisaient pas, non pas parce qu'ils pensaient que ça n'avait pas d'intérêt, mais parce que financièrement, et je dirais au point de vue du temps de techniciens qui serait nécessaire, c'était impossible. Or là, comme je pense que j'en avais déjà parlé les cours précédents, il y a eu une explosion technologique qui continue dans les 3 ou 4 dernières années, une explosion technologique dans les méthodologies de séquençage d'ADN qui font qu'on est capable de séquencer beaucoup, beaucoup plus vite et à des prix qui sont en chute libre un grand nombre de gènes ou même tout le génome. Il y a une compagnie qui vient d'annoncer au sommet de Davos, c'est quand même intéressant, hein, c'est-à-dire au sommet économique de Davos, il y a une compagnie qui a annoncé qu'à la fin de l'année, elle va commencer à commercialiser un séquenceur dont ils disent qu'il permettra de séquencer le génome entier d'un être humain, d'après ce qu'ils annoncent, pour 1000 dollars. Actuellement, il y a des compagnies qui proposent, en tout cas, le séquençage du génome humain pour 5000 dollars. Le premier séquençage du génome qui s'est terminé en 2001-2002, ça a coûté rien qu'aux États-Unis 3 milliards de dollars. Et en comptant, je dirais, ce qui s'est dépensé en Angleterre et en France, etc., on est probablement plus proche de 5 milliards de dollars pour séquencer un génome. Et maintenant, on en est à 5000 dollars, et peut-être, à la fin de l'année, si ce qu'ils disent est vrai, 1000 dollars. Et donc, alors, ceci dit, ce n'est pas un séquençage de génome, je dirais, à visée diagnostique. Quand vous faites du diagnostic, vous voulez être sûr que la mutation qui est responsable de la maladie, s'il y en a une, vous êtes quasi certain de la détecter, donc vous n'avez pas ou peu de faux négatifs, et d'autre part, que vous n'avez pas de faux positifs, que vous ne trouvez pas des choses qui finalement ne sont pas... Donc vous avez besoin d'une qualité beaucoup plus grande quand vous êtes en diagnostic que quand simplement vous avez envie d'avoir une espèce d'image générale du génome. Et donc, là, j'ai simplement montré que grâce à ce type d'approche, en tout cas aux États-Unis, pas encore en France, mais c'est un projet que nous avons débuté pour pouvoir faire du diagnostic génétique sur la déficience intellectuelle de manière beaucoup plus efficace. Donc vous voyez que, par exemple, aux États-Unis, un laboratoire qui est en South Carolina, mais qui est un laboratoire connu dans la déficience intellectuelle, propose maintenant de faire les 92 gènes du chromosome X qui sont associés à la déficience intellectuelle. Alors là, ça coûte quand même encore relativement cher, mais par rapport au coût de séquençage individuel selon la taille du gène, le coût de séquençage individuel d'un gène, c'est entre 500 et 2000 dollars par gène avec les techniques conventionnelles. Donc là, vous voyez qu'on passe à des choses qui sont beaucoup plus abordables, mais ce n'est que les 90 gènes du chromosome X. En fait, il y a beaucoup plus de gènes aussi sur les autosomes, donc ça n'est qu'une partie du problème. Mais en tout cas, ça vous montre déjà cette... Donc, il y a 90 gènes sur le X, mais comme vous savez, le chromosome X, ce n'est qu'un des 23 chromosomes différents que nous avons. Que se passe-t-il sur les autosomes, les 22 autosomes? Et donc, là, je vais donner un certain nombre de choses sur des progrès très, très récents, à la fois sur ces maladies génomiques, donc les copy number variants, où vous avez des segments de génome de quelques gènes, quelques dizaines de gènes, qui sont soit délétés, soit au contraire dupliqués. Donc, au lieu d'avoir deux copies d'une région, vous en aurez soit une dans le cas de délétion, soit trois dans le cas de duplication. Je parlerai également des maladies dominantes, c'est-à-dire celles où il suffit qu'une des deux copies du gène autosomique soit mutée pour avoir l'expression du phénotype. Et là, il y a une chose qu'il faut comprendre, c'est que, en tout cas, un retard mental, une déficience intellectuelle sévère, en général, est un frein important, au minimum un frein social important, au fait que les personnes atteintes auront une faible probabilité d'avoir des enfants. Donc, si vous avez une mutation qui entraîne une forme dominante de déficience intellectuelle sévère, c'est peu probable que vous ayez reçu cette mutation d'un des parents, puisque ce parent aurait été lui-même atteint de déficience sévère. Et donc, c'est pour ça que les études récentes qui sont justement permises par cette explosion des techniques de séquençage, eh bien, ont montré que... Alors, pour le moment, c'est des papiers de 2010 qui demandent à être, je dirais, confirmés, en tout cas pour les aspects statistiques, qu'à la fois pour la déficience intellectuelle, pour l'autisme, et à un degré moindre, mais quand même significatif aussi pour la schizophrénie, des néomutations pourraient avoir un rôle important. Donc des néomutations, c'est des mutations qui n'étaient pas présentes chez les parents, et au cours de la gamétogénèse, de l'oogénèse, de la spermatogénèse, il y a une mutation qui est survenue et donc qui est présente chez l'enfant, alors qu'elle n'est pas présente chez les parents. Donc c'est vraiment ce terme de mutation de novo qui est, je dirais, ce qu'on pourrait dire le buzzword dans la génétique de la déficience intellectuelle, de l'autisme, et même ça commence pour la schizophrénie. Et puis les maladies récessives, autosomiques récessives, c'est celles qu'un enfant atteint a hérité de ses deux parents porteurs sains, puisque chacun de ses deux parents aura une mutation sur une des copies du gène, et l'enfant atteint aura les deux mutations, chacune venant d'un parent. Donc je vais regarder. Alors, Donc ces maladies génomiques, les copy number variant, variation du nombre de copies. Donc effectivement, je vous dis, dans les années 90, grâce à ce qu'on appelait la cytogénétique moléculaire, on avait commencé à reconnaître un certain nombre de syndromes qui alliaient des délétions, en général c'était des délétions dans des régions précises données, par exemple sur le chromosome 15 pour le syndrome de Prader-Willi et d'Angelman, sur le chromosome 7 pour le syndrome de Williams. C'était des délétions de plusieurs gènes, mais toujours des délétions assez bien définies, et qui donnaient des syndromes cliniquement assez bien identifiables, d'où ces noms. Alors, à partir de 2005, les techniques de puce à ADN, qu'on appelle soit d'hybridation génomique comparative, ou qui utilise l'analyse de polymorphisme de l'ADN, mais en analysant des centaines de milliers de points sur le génome, et pour chacun de ces points dire y a-t-il deux copies, une seule copie ou trois copies, ont entraîné une explosion diagnostique et une explosion des connaissances sur les relations entre ces variations de nombre de copies et les phénotypes, qui sont souvent des phénotypes neurodéveloppementaux, mais qui peuvent être aussi, par exemple, des phénotypes neurologiques ou des phénotypes, par exemple, dans la maladie de Williams ou dans le syndrome vélo-cardio-facial, il y a des anomalies des vaisseaux ou des anomalies cardiaques. Donc, par exemple, les anomalies congénitales cardiaques sont souvent associés effectivement à ce type d'anomalie de copy number variant. Alors, à l'heure actuelle, on est, je pense maintenant, ce chiffre est maintenant de plus de 60 types de variation du nombre de copies dans des régions données, qui sont trouvés de manière récurrente pour pouvoir commencer à définir, je dirais, un syndrome ou une maladie, ou en tout cas de rechercher est-ce que, entre les divers malades qui présentent à peu près la même délétion dans une région donnée, et qui a été trouvée de manière récurrente dans quelques dizaines ou quelques centaines de malades, est-ce qu'il y a une expression clinique plus ou moins spécifique ? Et puis, il y a aussi des CNV très rares, c'est-à-dire des choses qu'on trouve chez un patient qui n'a jamais été décrit dans la littérature, qu'on ne trouve pas dans la population contrôle. Et là, c'est un problème, parce que quand on trouve ces CNV très rares, la question c'est, est-ce que c'est ça qui explique, si on a un enfant avec une déficience intellectuelle, est-ce que c'est ça qui explique la déficience intellectuelle ? Et comme on est en train de passer, en tout cas aux États-Unis, en Allemagne, c'est déjà fait en France, on a mis un peu de temps à utiliser aussi ces techniques pour le diagnostic prénatal, ça va être, je dirais, un problème tout à fait difficile de savoir, quand on va trouver quelque chose qu'on ne sait pas exactement interpréter, qu'est-ce qu'on dit aux parents au couple, sur, voilà, on a trouvé quelque chose, mais dont on n'est pas tout à fait sûr, est-ce que c'est pathologique ou c'est pas pathologique. Et donc, ces problèmes d'interprétation, donc, comme je dis, si c'est une nouvelle anomalie, c'est-à-dire quelque chose qui n'est pas vraiment décrit dans la littérature ou qui a été décrit une ou deux fois, mais donc on ne sait pas vraiment est-ce que c'est vraiment associé à une pathologie, alors on utilise souvent le critère, est-ce que c'est arrivé de novo, c'est-à-dire est-ce que les parents sont porteurs de l'anomalie ? Si un des parents normal est porteur de l'anomalie, on va avoir tendance à dire que ce n'est pas une anomalie pathologique. En fait, ce n'est que très partiellement vrai. Donc, ce n'est pas un très bon critère. Et d'autre part, ce n'est pas non plus parce que c'est de novo qu'on est absolument certain que c'est pathologique. Donc, si vous voulez, ce critère de novo, on trouve quelque chose chez un enfant qui n'est pas présent chez les parents, c'est une indication, c'est une suggestion que ça pourrait, ou c'est probablement associé à la maladie, mais ça n'est pas une certitude. Alors ensuite, on va regarder quel est le gène ou quels sont les gènes qui sont présents dans la région qui est délétée. S'il n'y a pas de gène, on se dit que c'est probablement quand même pas pathologique. S'il y en a beaucoup, ça a plus de chances d'être pathologique, etc. Mais, et je vais en reparler plus tard, parce que c'est vraiment quelque chose qui est très important, c'est pour ces anomalies de nombre de copies qui sont récurrentes. Et donc, on peut commencer à avoir des cohortes. C'est de savoir quel est le phénotype clinique associé. Est-ce que c'est toujours sévère ou est-ce que c'est quelquefois pas sévère? Est-ce que la pénétrance, c'est-à-dire pénétrance, c'est est-ce que toute personne qui porte cette anomalie va exprimer un phénotype clinique ou au contraire uniquement dans 20% des cas ou dans 50% des cas? C'est évidemment très important de savoir ça. Quelle va être l'histoire naturelle de cette maladie qui est liée à cette variation de nombre de copies? Et donc, comme quand même individuellement, même ces événements récurrents sont quand même assez rares, eh bien, pour pouvoir faire de telles analyses, il faut de très grandes cohortes qui sont nécessaires. Et ça pose un problème. Alors, pour vous donner donc un exemple, c'est d'une revue très, très récente de Evan Eichler, qui est un des grands, quelqu'un qui est maintenant à Seattle, qui est un des grands chercheurs dans ce domaine. Et donc, dans cette revue, il montre, je crois, là, il y en a une soixantaine de régions du génome qui sont soumises à ces délétions ou duplications récurrentes. Et en fait, en général, si elles sont récurrentes, c'est parce que ces régions sont entre ce qu'on appelle des duplications segmentaires et ces duplications, par des phénomènes de recombinaison, entraînent une probabilité nettement plus grande d'avoir des événements de délétion ou duplication. Et c'est pour ça qu'effectivement, on a ces anomalies récurrentes. Ça n'est pas parce qu'il y a une transmission familiale éloignée, c'est tout simplement parce que c'est des événements qui ont une probabilité d'arriver plus forte que pour des mutations au hasard. Et donc, comment est-ce qu'on interprète ça? Alors, d'abord, évidemment, la prévalence pour 1000 cas avec developmental delay. Developmental delay, c'est le nom de la déficience intellectuelle qui peut être aussi celle avant qu'on puisse faire formellement des tests de QI. C'est-à-dire, vous ne faites pas un QI chez un enfant de 3 ans, mais si vous avez un enfant de 3 ans qui a un développement où il ne fait que des choses qu'on attend d'un enfant de 1 an, on va dire qu'il y a un developmental delay. Alors, vous voyez donc qu'il y a certaines anomalies qui sont très fréquentes, d'autres beaucoup plus rares, donc vous avez tout un graphe de fréquence. Et en général, à quelques exceptions près, dans la même région, vous pouvez avoir des délétions en bleu ou des duplications en rouge. Donc, si vous voulez, d'avoir la normale, c'est deux copies, d'avoir une copie, c'est pas bien, mais d'avoir trois copies, quelquefois, c'est pas bien non plus. Dire pas assez, c'est pas bien, trop, c'est pas bien. Alors, si vous voulez, on le sait avec, je dirais, un chromosome entier pour la trisomie 21, on pourrait se demander, la monosomie 21, ça existe? Alors, la monosomie 21, ça existe très tôt dans l'embryogenèse et ça ne permet pas le développement embryonnaire. Donc, si vous voulez, une trisomie 21, c'est tellement sévère, une monosomie 21, d'avoir un seul chromosome 21, c'est tellement sévère que ça empêche le développement embryonnaire. Avoir une trisomie 21, ça a effectivement un effet important, mais qui va perturber le développement embryonnaire, mais ne l'empêche pas complètement. Donc là, d'ailleurs, quelquefois, vous voyez que les délétions ont l'air d'être beaucoup plus fréquentes que les duplications. Ça ne veut pas dire que l'événement mutationnel qui génère la délétion est plus fréquent que l'événement mutationnel qui génère la duplication. Si la délétion est plus sévère et a une pénétrance plus forte, comme ces analyses, vous les faites en général dans des populations de personnes avec un problème clinique, notamment ici, retard de développement, retard développemental, vous allez trouver, et si la duplication, par contre, est moins sévère et a une pénétrance qui n'est pas totale, en analysant des personnes avec un retard du développement, vous allez trouver plus de délétions que de duplications. Par contre, éventuellement, si vous analysez la population contrôle, vous allez pouvoir voir quelle est la fréquence dans la population contrôle. Alors, si c'est des anomalies qui ont une pénétrance totale, vous ne les trouverez pas dans la population contrôle. La population contrôle étant définie comme n'ayant pas de retard mental, en tout cas sévère, n'ayant pas d'anomalie cardiaque sévère, etc. Donc, je vais vous illustrer ça, et je vais parler notamment ici sur le chromosome 16 de deux anomalies, parce que c'est, je pense, elles illustrent de manière très intéressante. Et puis, je vais parler aussi d'une autre qui est associée au TAR syndrome, on va en reparler. Alors, toujours d'un autre article d'Evan Eichler, et là, du point de vue, j'allais dire, économie du diagnostic et ses relations avec la recherche, il y a quelque chose qui est quand même très intéressant. Les données dans cet article donc, qui est paru dans Nature Genetics, donc une revue très prestigieuse, portent sur 16 000 patients. La plupart de ces patients avec retard de développement, donc, mais pas uniquement. Il y en a aussi qui sont venus pour, qui ont été testés pour des anomalies cardiovasculaires liées ou non, des anomalies congénitales cardiovasculaires liées ou non avec une déficience intellectuelle, pour de l'autisme, etc. Les données sur les patients, les 16 000 données sur les patients, viennent d'un laboratoire privé américain. En France, on a fait certainement aussi 16 000 de ces analyses, puisqu'on a plein de laboratoires qui font ce genre de choses. Seulement, en France, c'est des laboratoires académiques qui sont dispersés et qui n'ont pas les moyens ou qui n'ont pas pu acquérir les moyens, bien qu'ils l'aient à un moment voulu, de faire une base de données nationale qui permettrait de collecter l'ensemble des informations qui ont été analysées. Donc, si vous voulez, moi qui suis un chercheur académique et je dirais très fervent défenseur de la recherche académique et de la recherche aussi hospitalière, je me dis quand même qu'on a un problème. Parce que là, il y a un labo qui est un labo qui n'a pas de vocation en principe à faire de la recherche, c'est un labo qui fait du diagnostic pour faire tourner sa boîte. Mais parce que c'est un très gros laboratoire et qu'il a pu se doter des moyens de construire une base de données autour de ça, eh bien, a pu avoir à lui tout seul ces 16 000 cas analysés par un chercheur académique, puisque Evan Eichler, lui, c'est un chercheur universitaire. Donc, ce qui montre, ici, si vous voulez, c'est la fréquence en fonction de la taille en millions de bases, donc la taille sur le génome de ces délétions ou duplications. Et on voit, par exemple, que ceux qui ont plusieurs types d'anomalies sont souvent des anomalies de plus grande, des anomalies phénotypiques diverses sont souvent de plus grande taille. Mais ce n'est pas ça que je voulais vous montrer. Ce que je voulais vous montrer, c'est grâce à ce travail où ils ont pu analyser 16 000 cas et 8 000 contrôles. Alors les contrôles ne venaient pas de ce laboratoire, les contrôles avaient été faits en milieu académique. Eh bien, vous pouvez commencer à voir quelle est la fréquence chez les cas, quelle est la fréquence chez les contrôles, et en principe, essayer de déterminer une pénétrance. Parce que ce que vous pouvez dire, c'est si on trouve l'anomalie toujours chez les cas et qu'on la trouve jamais chez les contrôles, ça suggère que c'est vraiment l'anomalie est responsable de la pathologie elle ne se trouve pas chez les contrôles parce qu'effectivement, s'il l'avait, il ne serait plus contrôle, il serait parmi les patients. Donc, si vous voulez, cette comparaison entre les cas et les contrôles permet effectivement d'avoir une première estimation de la pénétrance et vous voyez, par exemple, qu'en général, les duplications, on en trouve plus fréquemment dans les contrôles. Par exemple, on va donner un exemple. Vous voyez, en 22Q11, le syndrome vélocardiofacial, la délétion, on ne la trouve jamais chez les contrôles, alors qu'on en a trouvé 5 pour la duplication. Donc, ça suggère effectivement que la duplication a une pénétrance qui n'est pas complète, alors que la pénétrance est quasi totale pour la délétion. Alors, on va illustrer ça parce que, l'autre chose, c'est que, en analysant 16 000 cas, ce qui est quand même déjà très important, pour une anomalie donnée, et nous sommes en train de parler des anomalies les plus fréquentes dans le génome, vous voyez que, on arrive à avoir quelques dizaines à, au maximum, dans le cas d'Igeorge, mais ça c'était déjà bien connu, pour celles qui n'étaient pas connues avant, 50, une cinquantaine de cas. Donc, vous voyez, on part d'une population très importante, mais ensuite, pour savoir quel est le nombre de cas avec une certaine mutation donnée, on en a beaucoup moins. Et là, c'est juste quelque chose pour dire que même ce papier, qui est paru dans une revue très prestigieuse et qui est un papier très intéressant, il y a quand même des problèmes, parce que si on utilise ces données pour vraiment dire à une famille, voilà, il y a une délétion 15Q13.3, qui contient d'ailleurs un gène de récepteur à l'acétylcholine cher à Jean-Pierre Changeux. Ils en ont trouvé 42 chez les cas, 0 chez les contrôles, mais il y a deux fois moins de contrôles que de cas. Donc, ici, ils disent pénétrance de 1. Or, quand vous regardez la littérature sur cette délétion 15Q13.3, qui est associée d'ailleurs à des choses assez différentes, eh bien, elle est souvent héritée, dans les trois quarts de cas, d'un parent qui a l'air normal. Donc, la pénétrance, elle n'est pas vraiment de 1. Alors, pourquoi est-ce qu'il y a ici, il y a ceci ? C'est parce qu'en fait, si la pénétrance n'était que de 0,25, on s'attendrait à ce qu'il y en ait un ou deux dans la population normale. Il en a trouvé zéro, mais n'importe qui a fait des statistiques élémentaires sait que de trouver zéro alors qu'on s'attendrait à trouver un ou deux, c'est pas vraiment différent. Donc, si vous voulez, un des problèmes de cet article, c'est que s'il est utilisé par des généticiens cliniciens pour dire, voilà, d'après le papier, la pénétrance de cette anomalie est de 100%, ils vont commettre une grossière erreur. Donc, ce qui montre que même en analysant 16 000 cas et 8 000 contrôles, pour une anomalie donnée, on n'a pas encore suffisamment de données pour vraiment en déduire quelle est la pénétrance. Or, la pénétrance, c'est vraiment quelque chose, c'est un paramètre très important, parce que c'est ce qui permet de dire est-ce qu'on est sûr que quand on a telle anomalie, il y aura toujours une expression clinique, sans parler de l'expression clinique, sera-t-elle sévère ou sera-t-elle pas sévère. Donc, voyez. Alors, si je reviens d'ailleurs à ce, par exemple, 15Q13.3, qui est une délétion d'1,5 million de paires de bases, elle a été, comme c'est signalé dans ce papier, initialement trouvée chez des enfants avec retard de développement, donc developmental delay, mais on l'a trouvée également dans l'autisme, on l'a retrouvée également dans des cohortes de schizophrènes, mais à chaque fois à 0,2-0,3%, hein, donc c'est, si vous voulez, une fréquence faible, mais dans ces cohortes. Et en fait, là où c'est le plus fréquent, c'est chez des patients avec épilepsie. C'est jusqu'à 1% des patients avec une épilepsie idiopathique généralisée. Et notamment, effectivement, il y a un gène d'un récepteur d'acétylcholine qui est présent dans cette région, et donc ceci peut être lié. Donc là aussi, une des premières choses, c'est qu'on voit que par rapport à un diagnostic neurodéveloppemental, déficience intellectuelle, autisme, schizophrénie, épilepsie, on retrouve la même anomalie à une fréquence faible, mais qui est quand même nettement plus forte que ce qu'on trouverait dans la population normale. Donc c'est quand même des observations réelles dans ce qui apparaissait au départ comme des pathologies différentes. Bon, je vous avais dit l'autisme et le retard mental, il y a un recouvrement qui est important, mais là, on se trouve quand même dans des choses assez qui pourraient paraître étonnantes. Et je vous donne effectivement. C'était un des premiers papiers par cette grande compagnie irlandaise Decode qui a analysé et qui continue d'analyser de manière systématique le génome d'un tiers de la population islandaise et qui a des résultats tout à fait intéressants. Ça avait été les premiers à montrer qu'effectivement, on pouvait avoir ces microdélétions récurrentes associées à la schizophrénie. Et pour vous donner une idée, justement, cette délétion 15Q33.3, il l'avait trouvée chez 3 schizophrènes sur 1400, ça veut dire 1 sur 500. Il l'avait trouvée que chez 7 sur 33 000 contrôle islandais, donc avec ce qu'on appelle un odds ratio, c'est-à-dire quel est le risque lié, le risque relatif lié à la présence de cette délétion, eh bien, ça augmente d'un facteur en moyenne qui était calculé de 9, le risque d'avoir une schizophrénie. Le risque d'avoir une schizophrénie, c'est de 1%. Donc, on pourrait se dire que si vous avez une délétion 15Q13.3, ça irait à 9%. 9%, on pourrait dire, c'est important, mais 9%, c'est pas 100%. Donc, ça n'est pas prédicteur d'avoir une schizophrénie. Et d'autre part, ce qui est intéressant, c'est de voir ici l'intervalle de confiance sur cette valeur. Bien que c'est des choses qui ont analysé 1400 schizophrènes et analysé 33 000 personnes d'une population contrôle, c'est assez énorme. Le risque relatif ici moyen, il est calculé des temps de 9, mais l'intervalle de confiance sur cette valeur est entre 0,8 et 58. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, on ne sait pas sur la base de ces données s'il y a un vrai risque, parce que si le risque relatif n'est que de 1, c'est qu'il y a. Ça ne donne rien. S'il est de 58, ça veut dire que ça augmente de 60 fois votre risque d'avoir une schizophrénie, c'est majeur. Donc vous voyez que même dans des cas aussi d'études aussi importantes, 1400 patients, 33 000 contrôles, les données individuelles sur une anomalie donnée même si, disons, elle permet de dire oui, il y a un effet, et encore, à chaque fois, comme l'intervalle de confiance atteint le 1, 1, ça veut dire pas d'effet, alors on s'aperçoit qu'après, ils ont analysé encore 3300 cas et 8000 contrôles, et donc là, en analysant ceci, ils ont pu avoir des données plus précises. Et pour le 15Q13.3, le odds ratio maintenant devient 11 avec, et là on est, c'est déjà mieux parce que là on est certain de l'effet, avec un intervalle de confiance entre 2,5 et 50. Mais comme dit, si on prend la moyenne, ça veut dire que si vous avez, si quelqu'un a cette délétion 15Q13.3, on pourrait dire le risque d'avoir une schizophrénie est d'environ 11%. Mais en fait, finalement, on n'en est pas sûr, puisque c'est en fait le risque, il est quelque part entre 2,5% et 50%. Probablement pas aux extrêmes, enfin, vous voyez qu'on a encore une marge. Et ça, c'est en ayant finalement analysé 4700 cas et 40 000 contrôles. Alors, ça, c'est juste un papier dont j'avais déjà parlé il y a quelques années, mais de l'équipe de Rouen, qui est très intéressant parce qu'ils ont analysé non pas tout le génome, mais certaines de ces régions qui avaient été déjà retrouvées, soit dans le retard mental, soit dans l'autisme, soit dans la schizophrénie. Et ils les ont réanalysés dans 250 sujets avec retard mental, 250 sujets avec autisme et 250 sujets avec des formes de schizophrénie. Et leur conclusion, c'est qu'on trouve à peu près la même fréquence d'anomalies pour ces régions données dans les trois types de cohortes. Et souvent, on trouve des anomalies qui sont présentes. La même anomalie, ou en tout cas qui ressemble beaucoup, est présente soit chez l'un, soit chez l'autre de ces diagnostics. C'est-à-dire, de nouveau, dire qu'il y a une espèce de continuum de l'influence de la génétique d'une même anomalie sur l'expression clinique qui peut être vue comme très différente. Et alors, pour illustrer cet aspect oula, j'ai pris beaucoup de retard, de la difficulté d'analyser les phénotypes, parce que même pour ce qui est considéré comme étant les plus fréquentes de ces anomalies, elles restent très rares, c'est l'histoire de la délétion et duplication 16P11.2. Alors, premier article en 2008 dans un journal très prestigieux, le New England Journal of Medicine. Le titre, Association entre la microdélétion et la microduplication dans la région 16P11.2 et l'autisme. Alors, comment est-ce qu'on fait ça? On prend une cohorte d'enfants avec autisme. On passe les ADN sur ces puces qui permettent de détecter sur le génome des délétions ou des duplications. Et là, ce qu'ils trouvent, et notamment donc pour la délétion, ils trouvent, je crois, 0,3 ou 0,4% des enfants autistes dans cette population qui ont une délétion d'environ 600 kilobases avec une vingtaine de gènes dans la délétion. Et donc, article New England, association entre microdélétion. Ils ont trouvé quelques microduplications, mais c'était surtout la microdélétion et l'autisme. Un an et demi après, dans une revue tout aussi prestigieuse, Nature Genetics, on analyse une cohorte de schizophrènes et on trouve à peu près 0,3 ou 0,4%, la même chose, de duplication. Donc, papier, microduplication de 16P11.2 associée avec la schizophrénie. 2 ans après le premier papier, il y a un papier d'une collaboration suisso-française et un peu anglaise, mais surtout suisse-française, avec Philippe Frogel, Jacques Beckmann, Sébastien Jacquemont. Papier publié dans Nature, autre revue très prestigieuse, papier auquel nous avons participé, et qui montre qu'en fait, dans cette délétion 16P11.2, il y a une expression clinique qui est très pénétrante, qui est présente pas chez tous les patients, mais chez, j'allais dire, quasi tous les patients, et qui est de l'obésité, qui peut être de l'obésité souvent très importante ou même morbide. Et ça, c'est quelque chose où les papiers précédents n'avaient absolument pas remarqué. Or, on peut se dire, l'obésité, c'est quand même quelque chose d'évident. Vous n'avez pas besoin d'être un très grand clinicien pour reconnaître, tiens, telle personne est obèse. Ou même est vraiment une obésité morbide, c'est-à-dire, vous dites, là, c'est vraiment catastrophique. Or, il l'avait loupé, ça. Pourquoi ? Parce que c'était des cohortes qui avaient été construites comme étant cohortes de schizophrènes, cohortes d'autistes, et on a analysé ces cohortes pour dire, voilà, quelle est la fréquence de l'autisme, de cette délétion dans cette cohorte, sans savoir est-ce qu'il y a d'autres choses et sans toujours avoir la possibilité de revenir à une description clinique de chaque cas, parce qu'ils n'ont pas été recrutés pour l'obésité. Ils ont été recrutés pour... Alors, il se trouve que nous, dans l'Institut, comme on fait dans le laboratoire diagnostique le diagnostic d'un syndrome qui s'appelle le syndrome de Prader-Willi et qui associe une déficience intellectuelle avec un phénotype comportemental et une obésité qui est souvent très importante parce que c'est des enfants qui ont une pulsion vers la nourriture irrépressible. Donc, on recevait dans notre laboratoire beaucoup de cas à diagnostiquer d'enfants avec déficience mentale et obésité. Donc, on a dit, bah, tiens, on va collaborer pour voir quelle est la fréquence de cette délétion 16P11.2. Effectivement, dans cette cohorte définie par l'existence d'une déficience mentale et d'une obésité, vous n'êtes plus dans les 0,3 ou 0,4%, vous êtes dans 3% des patients qui ont une délétion 16P11.2. Hein, vous voyez, alors ça c'est quand vous avez alors dans ce papier, ils avaient des cohortes qui étaient aussi recrutées sur la base de l'obésité. Donc vous voyez, cette délétion, quand vous êtes un poids normal, on en trouve 1 sur 7000. Overweight, c'est-à-dire c'est un BMI, je crois, Body Mass Index, en dessous de 26, 0 sur 4000, donc ça veut dire, disons, en tout ça, c'est 1 sur 11000. Obèse, 3 sur 1700, c'est 1 sur 600, c'est pas énorme. Mais obésité morbide, c'est, je crois, un BMI de plus de 40. Là, vous voyez, on est déjà dans le 0,5%. Mais quand on combine obésité et anomalie développementale, cognitive, là, on tombe sur près de 3%. Et dans cet article, ils se sont à ce moment-là demandé, est-ce que cette obésité est présente dès le début, est-ce qu'elle survient? Alors, une première chose, bien que on pourrait se dire que le poids, c'est quelque chose de très facile à mesurer, etc., ils ont eu beaucoup de difficultés à obtenir les données longitudinales sur chaque patient, c'est-à-dire de savoir, à différents âges, quel était son poids. Mais en tout cas, ils ont pu faire les analyses en fonction de l'âge et quel était chez les porteurs de cette délétion 16P11.2. Et ce que vous voyez, donc ça c'est la courbe qui est la limite de l'obésité, ça c'est la courbe qui est la limite de l'obésité morbide, c'est 35, pardon, BMI, mais à l'âge adulte, vous voyez que les enfants avant 5 ans ne sont pas encore obèses. Et puis, vers l'âge de 5, 6, 7 ans, la plupart passent effectivement à une extrême obésité. Alors là, il y a un problème qui est tout à fait intéressant, mais que pour le moment, ils n'ont pas pu étudier à cause de ce manque de données longitudinales. Qu'est-ce qui se passe pour que des enfants qui, jusqu'à présent, jusqu'à environ vers l'âge de 5 ans, étaient dans la limite de la normale, tout d'un coup, en l'espace de 1 ou 2 ans, vont passer à une obésité qui est souvent une obésité morbide. Donc, j'ai parlé de ça parce que je pense que c'est tout à fait intéressant de voir qu'il a fallu plus de 2 ans pour se rendre compte que ce phénotype, qui était un phénotype, je dirais, qui aurait dû se voir facilement, a mis 2 ans pour être mis en évidence. Encore plus intéressant, enfin je dirais, encore plus surprenant, la même équipe, donc Frogel et l'équipe de Lausanne, Jackie Beckmann et Sébastien Jacquemont, et de très 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 nombreux collaborateurs, on va reparler, montrent dans un article très récent, je crois que c'est en octobre 2011, dans Nature, que la duplication, elle, est associée fréquemment à un sous-poids pathologique et à des difficultés d'alimentation qui peuvent être de type anorexie ou simplement des enfants qui refusent de s'alimenter, qui ont des difficultés, qui ne veulent pas telle chose, qui ne veulent pas telle chose. Mais en discutant avec Sébastien Jacquemont, donc, qui est clinicien, il disait que pour les familles, c'est souvent beaucoup plus difficile d'avoir un enfant qui refuse de s'alimenter que d'avoir un enfant obèse, si vous voulez. C'est encore plus perturbant, si vous voulez, d'avoir ces enfants qui refusent de s'alimenter ou qui ne s'alimentent qu'avec toujours exactement la même chose et qui ont énormément de difficultés. Donc, là, vous voyez, en 2009, il y avait eu un papier 0,3% de duplication 16P11.2 dans la schizophrénie. Mais là, ce qu'ils trouvent, c'est effectivement un phénotype comportemental, un phénotype assez fréquent du point de vue psychiatrique, mais qui peut être soit un phénotype neurodéveloppement, soit un phénotype psychiatrique. Et là, simplement pour vous voyez, par exemple, si on regarde la fréquence de la duplication chez les obèses, on ne trouve aucune duplication, alors que on trouve 26 obèses avec une délétion. Par contre, si on regarde des patients avec anomalie neurodéveloppementale, on trouve 73 duplications, 119 délétions. Donc là, on est bien dans le cas. La normale, c'est d'avoir 2 copies. Si vous en avez une, ça augmente votre chance d'avoir des retards de développement, des anomalies neurodéveloppementales. Si vous avez 3 copies, vous avez aussi ce risque. Par contre, vous voyez, pour des histoires psychiatriques, donc plutôt à type de psychose, etc., vous allez avoir 0,37%, mais ça n'est que 4 cas de duplication et seulement un cas de délétion. Et tout ça, pour avoir tout ça, il a fallu analyser les données obtenues par analyse de CNV, de CGHRA, analyse de puce, sur 36 000 patients et 60 000 contrôles. Donc vous voyez que pour avoir des données qui sont encore, je dirais, relativement incertaines. Et donc, si vous voulez, par exemple, ce qu'il montre dans ce papier, c'est un petit peu illisible, mais je vais le commenter, c'est que donc ce sous-poids pathologique, c'est-à-dire un BMI inférieur à 18, eh bien, on le trouve 10 fois plus chez des patients qui ont la duplication 16P11.2 et associé avec des failure to thrive, c'est-à-dire des enfants qui ont des difficultés initiales de prendre du poids, et donc c'est 8 fois plus de probabilité d'être avec un sous-poids pathologique. Je vais passer là. Et donc, finalement, dans cette région du chromosome 16, la dose normale, si vous avez une délétion, l'obésité va être très présente, liée probablement à une hyperphagie, avec un comportement trouble du développement, avec une possibilité d'autisme, ce n'est pas toujours de l'autisme, et aussi d'ailleurs une macrocéphalie, alors que la duplication, c'est un sous-poids pathologique plutôt, une anorexie, ça peut être des anomalies psychiatriques de type schizophrénie, et une microcéphalie. Donc vous voyez un équilibre entre les deux.